Je ne sais pas vous, mais quand je lis la parole de Dieu, parfois il y a des versets que j'ai du mal à comprendre. Et je creuse, je cherche, je prie pour que le Seigneur me donne de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et parfois, on n'arrive pas toujours à tout comprendre. Et quelqu'un disait dans sa prière que sur Terre, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, on laisse à la souveraineté de Dieu. Donc je vais vous proposer quelques questions. Essayez de prendre juste 30 secondes pour lire et répondre à ces questions. Donc, avec Yatal, on fait depuis peu ce qu'on appelle un challenge, les défis bibliques. Et Jean-Marc nous avait proposé de lire l'Épître aux Romains en une semaine. Donc, on l'a lu et arrivé au chapitre 9, j'ai été interpellé par l'exposé de Paul sur le choix de Dieu, le choix divin. Et souvent, quand on dit choix, on parle d'élection, Dieu qui choisit. Et puis, sont venues ces questions. Je vais vous proposer d'ouvrir votre Bible, donc dans Romains 9. Et tout au long de cette prédication, sans forcément les nommer, on essaiera à la fin de répondre à ces questions. Mais avant, si vous voulez bien, je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce, pour le mystère de ta grâce souveraine. Merci parce que tu nous as choisis pour être ton peuple. Merci parce que nous pouvons te faire confiance dans tes choix. Et ce matin, nous voulons simplement nous remettre à ta grâce et t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous fasses comprendre ta parole, Seigneur, et que tu nous fasses comprendre tout simplement que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Romains 9, et nous allons lire les versets 6 à 23, mais nous allons d'abord nous arrêter au verset 13. Donc 6 à 13. La parole de Dieu aurait-elle échoué? Non. En effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu a dit à Abraham, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Car Dieu a donné sa promesse en ces termes. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, « J'ai aimé Jacob et pas Ésaü ». Est-ce que ça vous choque? D'autres versets disent « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai écarté Ésaü. » Dans son argumentaire, Paul commence à poser une question. Est-ce que le refus de l'évangile par ceux auxquels il était destiné premièrement, est-ce que cela signifie que la parole de Dieu ou le plan de Dieu est échoué? Non, bien sûr. Dieu opère depuis toujours une distinction entre Israël et Israël. Je m'explique. Entre les enfants d'Abraham, selon la chair, et tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ceux qui sont les seuls à pouvoir prétendre justement au titre de descendant d'Abraham. Et on voit que c'est dans cette section que une première affirmation explicite du choix divin en faveur de Jacob apparaît. Dès le début de l'histoire, Dieu a choisi Abraham parmi tout un peuple, toute sa créature déjà. Et même au sein d'Abraham, dans la famille d'Abraham, Dieu choisit Isaac au détriment d'Ismaël. Jacob ensuite est choisi par Dieu, contrairement à Ésaü. C'est le principe du libre choix de Dieu, selon sa grâce. Ça peut peut-être paraître choquant, mais Dieu connaît toutes choses et c'est Dieu. Dieu est Dieu. Et l'apôtre Paul précise que le libre choix de Dieu ne dépend pas de nos actions. Le libre choix de Dieu ne dépend pas des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de Dieu qui appelle. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant, il est dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Paul dira plus loin au verset 16, cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Selon d'autres versions, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc on remarque que c'est bien avant que les enfants naissent, avant même qu'ils n'aient fait quoi que ce soit, soit en bien, soit en mal, que Dieu décide de choisir. Et pourquoi ? Pour que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Et Dieu ne s'en cache pas. En Malachie 2, les versets 1 à 3, les versets 2 à 3, en réponse à Israël qui lui demande « En quoi nous as-tu aimé ?» Dieu répond « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Or, j'ai aimé Jacob et j'ai haï, j'ai écarté Ésaü. » Et c'est ce que Paul reprend ici. Les questions peuvent être nombreuses. Que dire? Que penser? Dieu serait-il injuste? Si Dieu choisit, pourquoi fait-il encore des reproches? Car qui, en réalité, peut résister à la volonté de Dieu? Et c'est à ces questions que Paul va essayer de répondre dans les versets qui suivront. Je vous invite à lire les versets qui suivent, versets 14 à 23. Mais alors, que dire ? Dieu serait-il injuste ? Loin de là. Car il a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière on proclame qui je suis. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire alors, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches ? Car qui a jamais pu résister à sa volonté ? Mais qui es-tu donc toi, homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant ? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction ? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Rappelons d'abord le contexte. Paul répond dans ces versets à une question qui touche non pas tout d'abord à l'élection comme telle, mais principalement au refus que ses concitoyens opposent au Christ. Paul souligne fortement que s'agissant de l'accès à la grâce, aucune qualité se situant du côté de l'homme, que ce soit l'origine raciale, la possession de la Bible pour le monde européen, la possession de la Torah pour les Juifs, ou la circoncision, le baptême, les œuvres, aucune qualité se situant du côté de l'homme ne donne un avantage automatique pour le salut. On voit que c'est bien le cas, puisque c'est bien avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, que Dieu accorde sa grâce à l'un et pas à l'autre. Et Dieu accorde sa grâce de façon à maintenir sa liberté et sa souveraineté. Son projet de salut ne s'accomplit pas sur la base d'actions ou de sujets de fierté humain, mais en tant que dessein selon l'élection, grâce à son appel qui élit et qui sauve. Le projet de Dieu ne s'accomplit pas sur la base d'actions ou de sujets de fierté humain, mais selon le dessein de Dieu, grâce à son appel qui sauve. Donc Paul faisait la différence entre les Israélites qui reçoivent l'Évangile et les Israélites qui, se fondant sur leur statut de privilégié, et ça, il le rappelle dans les premiers versets du chapitre 9, ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent les conditions de fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte, les promesses, à eux les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Donc Dieu fait la différence entre les Israélites, ceux qui reçoivent l'Évangile, et ceux qui, se fondant sur leur statut privilégié, le rejettent. Et la suite du texte, dans Romains, les chapitres suivants, montrera bien que la question de fond est l'intégration des croyants d'origine juive, mais aussi et surtout des païens, au sein du peuple de Dieu. Dieu Est-il injuste quand il choisit? Et Paul essaye de répond à ces questions en trois points. Premièrement, l'apôtre Paul oppose à cette suggestion un déni vigoureux. Loin de là, jamais de la vie dans cette version. Dieu est-il injuste? Loin de là, jamais de la vie. Et Paul reprend le texte de l'Exode, vous savez, cette période, cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël où, après que Moïse soit monté sur la montagne, il tardait à revenir. Le peuple d'Israël décide de se créer un veau d'or pour l'adorer à la place de Dieu. Et Dieu les menace de destruction. Et Moïse intercède en faveur du peuple. Et Dieu revient sur sa décision. Et Dieu se révèle à Moïse en lui donnant son nom. Il lui dit « Je ferai miséricorde. À qui je ferai miséricorde ?» Exode 39. « Et j'aurai compassion. De qui j'aurai compassion ?» Et le contexte de désobéissance et de jugement est d'une importance capitale ici. Et même la citation en elle-même. D'une part, cette citation nous montre que ceux qui sont les objets de la miséricorde de Dieu le sont uniquement pour des raisons qui se trouvent en Dieu. Et d'autre part, cette citation nous montre aussi que Dieu reste souverain dans sa relation avec son peuple. Deuxièmement, Paul prend l'exemple de Pharaon. L'exemple de Pharaon va dans le même sens. Celui que Dieu suscite ici, Pharaon, n'est pas un homme bon. On sait qu'il a condamné le peuple d'Israël à l'esclavage. C'est un tyran. Il s'obstine dans son refus de laisser partir le peuple de Dieu et les maltraite, alors que nous avons ici le premier fils né de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel dit au verset 16 ? Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. L'endurcissement du Pharaon n'est pas un endurcissement arbitraire. Dieu n'a pas décidé arbitrairement d'endurcir le cœur de Pharaon, mais il l'a fait pour que cet endurcissement serve à la délivrance des siens et pour que son nom soit publié par toute la terre. L'endurcissement ici s'exerce au sein d'une situation d'oppression en vue du salut et de la proclamation du caractère de Dieu. Et l'illustration choisie par Paul n'est pas choisie au hasard. Et Paul reparlera de l'endurcissement au chapitre 11, en rapport cette fois-ci avec justement Israël, l'Israël ethnique, issu de la chair d'Abraham. Et là, il y sera question d'un endurcissement qui, dans le temps présent, devient le moyen pour que l'Évangile soit proclamé parmi les non-juifs et que ceux-ci soient intégrés eux aussi au peuple de Dieu. Donc l'exemple de Pharaon nous permet de voir que ce qui se passe dans notre temps présent a un précédent dans l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël est momentanément Dieu les laisse momentanément dans l'endurcissement pour que nous, les païens, pour que nous soyons au bénéfice également de la grâce de Dieu. Troisièmement, l'image du potier. Ou tout simplement, Dieu n'aurait-il pas le droit de faire ce qu'il veut avec sa créature, tel le potier avec sa pâte, avec l'argile? Cette image pourrait donner l'impression d'un Dieu capricieux qui agit au gré de ses désirs. Mais il n'en est rien. Regardez la dissymétrie des termes que Paul emploie. D'un côté, effectivement, on a des vases de colère, et Paul emploie les termes de patience et de support. Envers ces vases de colère, Dieu patiente et il les supporte. Et de l'autre côté, c'est la gloire et la miséricorde qui sont employées. Et ce n'est que pour ces derniers, les vases de miséricorde, que Dieu lui-même a dit qu'il les a d'avance préparés pour la gloire. Dieu a d'avance préparé les vases de miséricorde pour la gloire. Mais Paul ne dit pas que Dieu a préparé d'avance les vases de colère. Donc, si Dieu prépare d'avance certaines personnes, il ne décide pas d'avance la destruction d'autres personnes. Que dire alors de la métaphore vase formé pour la destruction? En tout cas, en ce qui me concerne, je crois qu'il faut comprendre cette métaphore, encore une fois, en rapport avec l'endurcissement du peuple d'Israël, avec ceux qui, encore au sein d'Israël, continuent à rejeter le Christ. Et à la différence des vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance, ceux-ci sont momentanément laissés dans leur incrédulité. Et il est important de souligner quand même qu'au verset 21, que tous ces deux types de vases font partie, sont formés, façonnés à partir d'une même pâte, de la même argile. C'est-à-dire, nous sommes tous descendants d'Adam, corrompus par le péché, tous coupables aux yeux de Dieu. Mais Dieu, parmi cette humanité perdue, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul, et parmi ces injustes, Dieu choisit, il a préparé d'avance des vases de miséricorde. Dans l'actualité aujourd'hui, on s'émeut en France du cas de monsieur Alaoui, ouais, Alaoui, c'est ça, en Indonésie, et on souhaite justement qu'il soit gracié. Est-ce que aujourd'hui, si le président indonésien décide de gracier M. Alaoui, est-ce qu'il serait injuste de le faire? Même si, effectivement, il y a d'autres condamnés qui vont peut-être passer par la mort, par la condamnation. Nous étions tous perdus. Nous avons tous péché, tous condamnés, mais par la grâce de Dieu, Dieu a choisi, nous a choisi pour être sauvés. Est-ce que Dieu serait injuste de prendre parmi des condamnés de choisir de gracier certains? N'a-t-il pas le droit de le faire? L'élection de Dieu s'opère donc au sein d'une pacte destinée à la destruction. Et l'élection met en lumière la constance inviolable et l'attachement de Dieu à son dessein parfait. Si aujourd'hui nous faisons partie de l'Église, si aujourd'hui nous faisons partie du peuple de Dieu, ce n'est pas grâce à nos choix personnels ou à des événements aléatoires imprévisibles, mais c'est simplement parce que dans le mystère de la grâce de Dieu, dans le mystère de son amour, Dieu a bien voulu se rapprocher de nous. Et Dieu, le Dieu souverain, s'est attaché à nous. Cependant, si Dieu est bien celui qui choisit et qui reste souverain dans son choix, l'annonce de ce fait n'a pas pour finalité de faire planer une ombre sur les certitudes du chrétien ou d'introduire dans son cœur une angoisse au sujet de sa relation avec Dieu. Le chrétien ne doit pas se poser constamment la question de savoir « suis-je un vase de colère ou suis-je un vase de miséricorde ?» Au contraire, le fait de savoir que c'est Dieu qui choisit devrait nous pousser véritablement à l'adorer. Songez un seul instant que, avant que vous ne naissiez, Dieu vous avait choisi. Quelle grâce! Si Paul relève cet aspect de l'élection, ce n'est pas non plus pour brosser un portrait de la toute-puissance arbitraire d'un Dieu imprévisible pour qui élection et réprobation seraient juste les deux faces d'une même médaille, avec chacune le même poids et la même fonction. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. La Bible déclare dans Ésaïe 55 que ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu sont impénétrables. Et reconnaître que Dieu est souverain, c'est tout simplement reconnaître que Dieu est Dieu. Nous ne devrions pas craindre cette vérité, ni nous en excuser. Les non-chrétiens ne peuvent pas dire que si aujourd'hui ils ne deviennent pas chrétiens, c'est de la faute de Dieu. La volonté de Dieu dans la Bible, c'est que tous soient sauvés. Même si la Bible enseigne l'élection souveraine de Dieu, elle enseigne également la responsabilité de l'homme. Et s'il est vrai que Dieu choisit certains pour le salut, il est vrai aussi que ceux-ci doivent choisir d'être sauvés par une action déterminée de leur part. L'aspect divin du salut, Jésus le dit dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » D'autres versets, Jean 6, 44, « Personne ne vient à moi si le Père ne la tire. Jérémie 23 dit aussi, « Je me laisserai trouver par vous. » L'aspect humain du salut, toujours dans Jean 6, après que Jésus ait dit « Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire », il dit aussi « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jérémie 23, 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Certains passages bibliques, au contraire même, mettent en avant comme preuve que la volonté humaine, comme preuve que pour notre salut, la volonté humaine compte, et non simplement l'action divine. Mais même cette volonté humaine vient de Dieu. La Bible nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Nous avons donc une responsabilité aussi de choisir la vie pour que nous vivions. Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, et les dieux ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On le voit également, cette responsabilité, dans le verset central de la Bible, Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde entier. Parmi cette masse perdue, Dieu nous a tous aimés autant que nous sommes. Qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas encore choisi d'accepter le Seigneur, ne vous réfugiez pas derrière le fait que Dieu choisisse, derrière le fait qu'il y a des vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance, mais vous avez bel et bien une responsabilité. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mais je crois que le Père nous a tous attirés en pourvoyant à la délivrance, au salut éternel par la mort de son Fils Jésus, qui est venu mourir pour tous les hommes. Donc aujourd'hui encore, c'est comme si, je reviens sur l'actualité, le président indonésien proposait de gracier M. Alaoui et qu'au final, il le refusait. Dieu nous a tous graciés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et chacun de nous a une responsabilité devant Dieu d'accepter ce cadeau qu'il nous a donné. D'accepter le cadeau du salut qu'il nous a offert. L'évangéliste Dwight Moody disait, pour un peu expliquer ce phénomène, de cette doctrine de l'élection, il disait quand on arrive à la porte du salut, nous voyons l'invitation suivante, écrite sur la porte. « quiconque veut peut entrer. Quiconque veut peut entrer. Et quand nous passons la porte et que nous refermons la porte, derrière nous, on peut lire sur la porte « Élu selon la préscience de Dieu ». Donc l'élection, c'est dans le secret de Dieu, le secret de ce Dieu souverain. Bien que Dieu choisisse certains pour le salut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne destine jamais personne à la perdition. Si nous sommes perdus, c'est à cause de notre péché, et ça la Bible nous le rappelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. En relation avec ce sujet, nous devrons éviter deux dangers. Le premier consiste à ne considérer qu'une seule face de cette vérité, comme par exemple croire que l'élection souveraine, croire simplement à l'élection souveraine de Dieu, et nier toute responsabilité de la part de l'homme par rapport à son salut. L'autre revient aussi à ne considérer, à accorder trop d'importance à l'une de ces deux vérités au détriment de l'autre. Je pense que l'approche biblique consiste à croire autant à l'élection de Dieu qu'en la responsabilité de l'homme. Et la réponse de Paul, de toute façon, c'est qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour critiquer Dieu ? Je crois qu'on doit rester humble, même si on n'arrive pas à concilier ces deux vérités, l'élection de Dieu et la responsabilité de l'homme, rester humble face à ce que nous, on ne comprend pas, qui est pourtant clair dans la tête de Dieu. Pour nous, ça semble incompréhensible, peut-être contradictoire, mais pour Dieu, qui est Dieu, c'est limpide. Et nous comprendrons, je crois, clairement lorsque le Seigneur reviendra. Nous devons donc rester humbles et faire confiance à Dieu, notre Dieu souverain. Je vous propose donc quelques réponses. Les anciens me diront si j'ai tout faux ou pas. Dieu est-il libre de choisir ? Oui. Puis-je venir à Christ si Dieu ne m'attire ? Non. Si donc c'est Dieu qui m'attire, ai-je le choix de venir à Christ ? Oui. La grâce de Dieu, sa miséricorde, dépend-elle de mes actions et de ma volonté ? Non. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait grâce. Dieu a-t-il d'avance réservé certains pour le salut et pour la perdition ? Non. Si Dieu a réservé d'avance certains pour le salut, Dieu n'a pas réservé d'avance d'autres personnes pour la perdition. Si finalement je n'ai pas le choix, Dieu peut-il encore me blâmer ? Alors là, j'ai mis NA, non applicable. Parce que j'ai aussi ma responsabilité. Dans ce cas, Dieu ne serait-il pas injuste ? Comme la réponse à la question précédente est non applicable, là aussi, c'est non applicable. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités compliquées et juste à nous remettre à sa grâce souveraine. Amen.